m'appelle Robert. J'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mouchma au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Le Fonds mondial annonce une aide de 700 millions de dollars américains au gouvernement congolais pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Par ailleurs, les bailleurs de fonds, selon une source, exigent la part du gouvernement avant de décaisser cette somme. Où en est-on dans la lutte contre le sida en RDC? Quel regard avez-vous sur cette exigence de fonds mondial? Et quelles seraient pour vous les priorités dans les secteurs de la santé quant à la lutte contre le sida? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Noëlla Luzitu et Héritier Sidiakala concourent à la production de cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ces studios Gaspard Matamba, chargé des programmes et plaidoyer à l'AMO Congo. Bonjour, Monsieur Gaspard.
Bonjour, J.R.
Alors, la première question, où en est-on dans la lutte contre le sida? Où en est-on donc avec la lutte, en ce qui concerne le financement et aussi la prise en charge des malades?
Merci pour la parole, J.R. Ce qui concerne le financement, comme vous l'avez si bien dit, il y a d'énormes besoins, parce que si nous regardons le plan stratégique national 2014-2017, nous estimons que c'est un plan stratégique qui est au-delà des 2 milliards qu'il faut mobiliser pour 5 ans pour une réponse face aux besoins du pays. Mais à cela, nous avons quand même des appuis de partenaires extérieurs, notamment les fonds mondiaux, qui est le principal d'ailleurs, sans compter les autres. Avec les fonds mondiaux, il y a des promesses, comme vous l'avez dit, qui sont annoncés. Mais pour l'instant, le pays, à ce qui concerne les fonds existants, nous n'avons que 34 672 000 dollars qui sont disponibles pour le pays. Donc ce sont les fonds qui font la consolidation du round 7 et le round 8. Mais à ce qui concerne les nouveaux modèles de financement du Fonds mondial, nous attendons 130 millions de dollars. Sur les 701 que vous avez annoncé, en fait, les 700 millions de dollars prennent en compte le paludisme, la tuberculose, le VIH et le renforcement du système de santé.
Donc voilà les maladies opportunistes qui apparaissent quand il s'agit du cas du sida.
Oui, disons, ce sont les maladies opportunistes, s'il faut le dire, mais là, il s'agit vraiment de maladies qui sont à la base de la mortalité dans le monde. Et le Fonds mondial s'est investi pour lutter contre ces trois maladies. Et il met beaucoup de financement depuis une dizaine d'années. Et ce sont des programmes entiers dans le pays. Nous avons un programme de lutte contre le paludisme. Nous avons un programme de lutte contre la tuberculose. Nous avons un programme de lutte contre le VIH-Sida. Donc, ce sont vraiment des programmes établis qui ont des charges, qui ont des besoins.
Quel regard peut-on avoir sur cette exigence du moment où on sait qu'à un certain moment, il y a eu gel de financement, quand les fonds mondiaux arrivaient à la charge, c'est comme pour dire, ça présage déjà un rétablissement de partenariat.
Oui, le gel de financement, c'était vers 2010, si je ne m'abuse pas, 2010-2011. Oui. Il y a eu des problèmes par rapport au round 8 qui avait commencé, il y avait de l'argent, surtout avec les volets des activités communautaires, dont le partenaire ou le bailleur de fonds estimait qu'il ne voyait pas très bien clair et il fallait comprendre.
Et que l'argent, en termes clairs, il disait que l'argent était dilapidé, puis c'était utilisé à d'autres fins.
Soi-disant, oui. Mais depuis 2011, depuis début 2012, finalement, les financements étaient relancés. C'est ce qui a fait que le fonds du round 7 et le round 8 soient consolidés et c'est ce fonds-là qui court jusqu'au 31 décembre 2014.
Alors, ben 700 millions, le fonds exige au gouvernement congolais sa part avant de décaisser. Le calcul, si mes calculs sont bons, parce que vous avez parlé tout à l'heure, il faut mobiliser pratiquement autour de 2 milliards sur 5 ans, oui. C'est ce que vous avez dit, 2 milliards. Alors aujourd'hui, avec 700 millions, ce n'est pas seulement pour le SIDA. J'imagine que s'il faut dans la clé des répartitions, parce qu'on ne sait pas comment ça va se répartir, mais il faut la part du gouvernement. Mais si nous tablons simplement sur les 700 millions, alors nous disons que la part du gouvernement va aller au-delà de 1 milliard. Oui. 1 milliard à peu près, 1 milliard 300.
Effectivement, pour la RDC, le Fonds mondial exige 5%, au moins 5% des fonds de contrepartie. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mmh. Donc, il faut faire les calculs sur le 700 millions. À quoi ça ressemble? Je crois que c'est au-delà des 3 et quelques millions, 35 millions qu'il faut mobiliser par les gouvernements. Mais il faut reconnaître déjà que le gouvernement congolais a commencé à contribuer. Et nous avons déjà reçu la première partie de fonds de contrepartie qui était autour de 3 millions environ. Et cet argent est en train d'être utilisé maintenant par les programmes, mais aussi par les organisations de la société civile comme fonds de contrepartie du gouvernement congolais. Et tout à l'heure là, je reviens d'une réunion, ça c'est une indiscrétion, mais je permets peut-être de le dire, où on nous a dit que le gouvernement s'engage davantage à mettre plus de l'argent que ce qu'il avait mis avant. Je crois qu'il va même aller au-delà de 5%.
Donc, comme fonds de contrepartie. Voilà. Alors, mais aujourd'hui, le gouvernement s'engage à aller même au-delà de 5% de fonds de contrepartie. Et quelles seraient pour vous les priorités d'ailleurs? Parce que dans la lutte, vous avez dit, sur le plan financement, il y a IGEL, on l'a relancé, aujourd'hui c'est un peu avancé. La prise en charge pose problème dans certains coins du pays où l'incidence continue encore à poser problème. Les taux de prévalence toujours avec en hausse. Et à quelque part aussi, on a stabilisé. Dans d'autres provinces, non. Donc la situation est un peu, comme qui dirait, asymétrique. Alors, à ce jour, s'il faut que ces moyens soient mobilisés réellement et que ces moyens soient en possession du gouvernement congolais, disons le gouvernement possède ces moyens, quelles seraient pour vous les priorités?
En fait, ce ne sont pas mes priorités à moi parce que déjà avec les nouveaux modèles de financement du Fonds mondial, il y a des exigences. Notamment les dialogues avec toute la communauté, donc partant de la base jusqu'au niveau central. Et ces priorités ont été identifiées au niveau de la base, mais aussi au niveau national. Il y a eu un dialogue national qui a été organisé. Autour de ces dialogues, au regard de notre plan stratégique national, comme je le dis, 2014-2017, il y a des priorités du plan stratégique, mais le dialogue national a identifié quelques interventions prioritaires. Dans les domaines de la prévention, dans les domaines de la prise en charge, mais aussi dans les domaines de l'atténuation de l'impact, mais aussi par rapport à l'appui à la lutte, donc à l'appui à la coordination, s'il faut dire ainsi. Donc, en termes de priorité, s'il faut le dire, par rapport à la prévention, nous avons d'abord les populations clés qui sont nos priorités pays aujourd'hui. Dans les populations clés, nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, nous avons les professionnels des sexes, nous avons aussi les consommateurs ou les usagers des drogues injectables qui sont des priorités. Mais aussi, il y a la PTME qui fait vraiment une priorité des priorités dans la prévention. Parce qu'il faut...
Comme transmission mère-enfant.
Oui, donc la prévention de la transmission mère-enfant qui entre dans le paquet prévention. Mais il y a aussi une portion de la prévention qui est accordée à la population générale avec un focus sur les jeunes, mais aussi des couples. Voilà, ça c'est au niveau de la prévention. Et pour la prise en charge médicale, il y a d'abord le traitement aux ARV qui est une priorité parce qu'il faut, là, s'il faut le dire, nous sommes autour de 76 000 environ de personnes qui sont sous traitement ARV. Mais c'est ce qu'on attend. Donc on estime que la RDC a environ 390 000 personnes vivant avec le VIH. Donc vas-y comprendre l'écart. Donc nous sommes autour de moins de 40% quoi, de la couverture en termes des ARV. Donc les ARV, ça fait une priorité. Mais aussi la co-infection, VIH, tuberculose, ça c'est une priorité des priorités. Mais aussi toutes les infections opportunistes autres que la tuberculose font également l'objet de la priorité. Mais aussi l'appui nutritionnel, parce qu'il faut le dire, de personnes qui sont sous traitement, et c'est un traitement à vie, généralement on a constaté qu'il y a plus de 52% de personnes qui sont sous traitement qui sont malnutries. Donc là, il faut de l'appui. Et ça c'est encore un cri d'alarme, parce qu'au fait, même quand on regarde déjà les paquets, comme nous l'avons dit, nous sommes à 130
millions de dollars qui ne représentent absolument rien. Donc voilà, en termes de priorité par rapport à la prise en charge.
De la prise en charge psychologique aussi. Hein.
Oui, il y a un peu d'argent, mais que nous n'avons pas mis. Que plutôt nous avons mis dans les financements au-delà. Parce qu'en fait, il faut reconnaître que dans le nouveau modèle de financement, les fonds mondiaux vous donnent la possibilité d'avoir un budget indicatif. C'est là où nous plaçons les 130 millions de dollars. Mais il y a aussi le financement au-delà. En fait, le financement au-delà, c'est prouver que vous avez réellement des besoins et que si vous les présentez très bien, les fonds mondiaux peuvent faire un plaidoyer en faveur du pays pour mobiliser d'autres partenaires pour combler ces gaps-là. Donc, on les place là-bas. Mais il y a aussi le soutien même.
Qu'en est-il au juste? Parce qu'à un certain moment, on attendait de langage de spécialistes qui disaient au fait que la RDC a stabilisé les taux d'incidence.
Oui, parler incidence, c'est trop fort. Plutôt parlons prévalence. Parce que quand nous parlons de la prévalence, au fait, on s'est mis d'accord depuis 2013 que nous considérons la prévalence à 1.1. Et quand nous considérons la prévalence à 1.1, c'est un pays à épidémie généralisée. Donc, nous ne pouvons pas nous frotter les bras pour dire les mains plutôt, pour dire oui, on a stabilisé. Les besoins, il est encore là. Comme je l'ai dit aujourd'hui, les estimations faites par EPP Spectrum de Onicida, avec cette prévalence de 1.1, estiment que la RDC a environ 390 000 personnes vivant avec le VIH. Donc, allez-y comprendre, c'est quand même énorme. Donc, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire.
Voilà, il y a encore du chemin. On va voir le tableau à travers la province et aussi les auditeurs qui vont nous rejoindre pour faire leur lecture par rapport à cette annonce d'aide de 700 millions de dollars américains au gouvernement congolais pour la lutte contre les sida et la tuberculose et d'autres maladies, opportunistes. Dans le cas de cette lutte, donc, alors nous sommes à quel niveau? Vous l'avez dit, sur le plan financement, il y a quand même des avancées et sur le plan prise en charge, il y a encore ce qui reste à faire, des défis à relever. Et pour vous, les priorités, vous les avez énumérées. On va prendre les réactions des uns des autres. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Patient à Lubumbashi. Patient, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les députés de la radio Capitaine, Patient Chitoba Lubumbashi.
Voilà, Patient, vous avez la parole.
Oui, j'ai entendu notre invité. Par rapport à ce fonds-là, je suis pas d'accord avec le Fonds mondial, mais sinon, j'ai quelques préoccupations que je peux poser à notre invité.
Voilà, nous prenons Pierre qui était à Kananga, dommage pour Patient. Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Kati.
Vous avez la parole, Pierre.
Oui, moi je voulais, par rapport à ces fonds qui vont venir l'année prochaine, je voulais demander à votre invité, quel est le mécanisme d'accéder à ces financements par rapport aux structures de la société civile? Est-ce que ces fonds vont passer comme la fois passée par les PNMLS ou bien il y a d'autres mécanismes que les associations de la société civile puissent facilement accéder à ces fonds sans nécessairement passer par les PNMLS puisque ici par exemple en Cassie occidentale les associations de la société civile sont restées avec une mauvaise image du PNMLS. C'est un peu ça ce que je voulais savoir.
Oui, mais Pierre, pour vous, qu'est-ce que vous avez observé dans la lutte contre les SIDA en RDC, et plus particulièrement à Kananga? Quel regard vous avez?
Par rapport ici en province, il n'y a pas, depuis que le PNMLS a fermé, et il n'y a pas vraiment des fonds en faveur des organisations de la société civile pour lutter contre le VIH.
Donc, jusque-là, il n'y a aucun mécanisme qui est mis en place sur place. Donc, même pas la présence d'Amo Congo, la présence d'autres structures. Voilà, Pierre, on aimerait un peu savoir. Il n'y a pas de structure qui travaille dans la lutte contre les sida là-bas à Kananga.
Et les malades. Les malades
sont pris en charge.
Qui n'ont pas de moyens de lutte.
Donc, il y a des structures, mais il y a un problème des moyens.
Il y a le problème de moyens, il se démène avec les moyens de bord, mais en termes de financement, pas assez de partenaires qui appuient la lutte contre le VIH-SIDA ici en province, ici au niveau déjà de la ville de Kananga. ça pose problème et a fortiori à l'intérieur de la province,
le territoire des
districts, où les jeunes gens, depuis 5 ans, n'ont pas accès à l'information. Et c'est un peu ça le problème, l'image.
Oui, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, le foyer du sida par rapport au taux de prévalence, selon les dernières statistiques, au niveau de Chicapa, parce que Chicapa c'est dans le Kasaï occidental, on sait que Chicapa a un taux de prévalence très élevé par rapport à d'autres secteurs du pays.
Effectivement, Chicapa.
Voilà. Alors c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'il y ait des problèmes de moyens, j'imagine que sans moyens, la prise en charge pose également problème.
Oh oui, la prise en charge vraiment pose problème ici en province depuis que le PNMLS avait fait, on n'a plus de financement. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir appelé et merci de nous avoir, donné cette information sur le non-fonctionnement de PNMLS dans cette partie du pays qui pose également problème. Nous allons prendre Patrick qui est à Béni. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Patrick.
Bonjour, Gérard. Bonjour à notre invité.
Alors, quel regard...
J'avais quelques petites questions qui doivent demander des précisions à notre invité.
Mais d'abord, quel regard vous avez de cette lutte contre le sida depuis qu'on l'a lancée jusqu'à aujourd'hui?
Bon, le regard est assez bon, mais ce qui est plus important était de savoir, vous savez... Ça fait au moins plus de 3 ans que la province du Nord Kivu veut toujours proclamer la capitale du viol en RDC. Ça, vous le savez très bien.
Oui.
Alors, notre invité, j'avais quelques petites questions de savoir quelles sont les provinces prioritaires pouvoir bénéficier à ce fonds de 7 millions
de dollars.
Alors, à part ça, j'avais aussi une autre question, c'était de savoir... le VIH, vous savez, quand on parle d'une capitale du viol, on s'attaque directement la guerre. Comme ça vient à peine de prendre fin, vous savez, il y a dans le Nord Kivu quelques territoires qui étaient sous l'emprise
des milices ou encore d'autres
contrôlés, soit de la rébellion. Alors, je ne sais pas. Le province prioritaire et le Nord Kivu dans ces différents territoires, est-ce qu'ils vont en bénéficier combien et est-ce réellement cette fois va encore passer dans le PNMLS?
Voilà, est-ce que Patrick,
d'autres mécanismes comme la banque mondiale a demandé 5% que la RDC doit fournir, qu'il soit un peu clair, puisque la société civile, le PNMLS, ils doivent aussi être associés ou pas, et qu'ils puissent être assez clairs pour que nous puissions bénéficier tout le Nord Kivu. Comme moi je suis dans le Nord Kivu, on en a vu assez avec les différentes rébellions par-ci par-là. Est-ce réellement nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mères qui ont été violées durant beaucoup de temps, est-ce réellement ils seront capables au moins d'énumérer ces fonds, d'abord au moins une moitié de ces fonds dans cette province, puisque d'abord la province, d'autres provinces auront aussi la capacité ou la probabilité d'en avoir aussi, comme ce ne serait pas vraiment focalisé seulement dans le VIH/SIDA.
Il y a d'autres maladies, la tuberculose, la malaria, le paludisme et tant d'autres.
Le mal vitri. Or, c'est parmi aussi l'objectif, ou soit c'est le point saillant de la province.
Voilà, merci beaucoup Patrick. Je crois que notre invité va revenir sur ça pour réexpliquer un peu les priorités, parce que c'est là la question principale de cette émission. Il faut noter que le sida n'a pas de province, le sida tue et tue partout. Voilà, donc la lutte doit être également générale et plus efficace pour permettre à ce qu'on puisse aller vers l'atteinte des objectifs du millénaire des OMD. Voilà, merci beaucoup Patrick d'avoir appelé des Béni. Joël, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Kati.
Vous avez la parole, Joël. Quel regard avez-vous sur la lutte contre le sida et quelles seraient pour vous les priorités lorsque les 700 millions seront décaissés?
Oui, c'est une question qui m'intéresse et je pense que même si je n'ai pas de structure, mais je suis en train d'œuvrer dans les domaines parce que j'ai toujours sensibilisé les jeunes à ce qui concerne la sexualité avant le mariage. Je pense que ceux qui me suivent et qui acceptent mon conseil échappent aussi au sida en ce sens. Et apparemment, dans la ville et à travers le pays, on peut croire qu'il y a une très forte sensibilisation concernant la lutte contre le sida. Mais en réalité, si on approche les jeunes, les efforts consentis, sans toutefois les nier, mais ne sont pas vraiment centrés sur les axes qui peuvent directement toucher les jeunes. Par exemple, on dépense beaucoup d'argent pour les panneaux publicitaires et pourtant nous n'avons pas cette culture-là de lire ce qu'on nous écrit. Et ça, c'est ce que je constate. Alors moi, je propose à ce que, lorsqu'on va utiliser ces moyens, qu'on puisse utiliser beaucoup plus cet argent en ce qui concerne la sensibilisation des bouches à l'oreille, ou soit c'est par la projection des films dans des quartiers. C'est ce qui pourra vraiment contribuer vraiment à une forte sensibilisation par rapport à ce qu'on fait là.
Merci beaucoup Joël. Nous retenons que pour vous, pour votre intervention, il y a un problème au niveau de la sensibilisation. Vous avez souligné que quand on approche les jeunes, on se rend compte qu'il y a vraiment un déficit de communication, un déficit au niveau de la sensibilisation, parce que les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur la lutte contre le sida, les avancées ou encore les défis à relever, parce que selon vous, vous estimez que beaucoup d'argent sont dépensés inutilement dans les supports publicitaires, et pourtant le pays en fait compte bon nombre d'analphabètes, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, et c'est que la sensibilisation passe aux côtés de la plaque. Merci beaucoup Joël d'avoir appelé 081 890 63 15, ou encore le 081 890 49 69, pour votre intervention directe.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidan, les mercredis jeudis de 21h à minuit. Le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous revenons à vous, Gaspard Matanda, Matamba, vous êtes chargé des programmes et plaidoyer à l'AMO Congo. Voilà, une grande structure au pays qui lutte contre le VIH-Sida, partenaire du gouvernement congolais et qui accompagne le gouvernement dans cette lutte. Aujourd'hui, vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai que quelque part, il y a déficit de communication, d'autres, il y a un problème sérieux de prise en charge. Alors, comment orientez-vous les préoccupations des uns et des autres et par rapport à ce nouveau financement, est-ce que vous pensez que la prise en charge ou encore la prise en charge dans, sa, dans son ensemble sera vraiment efficace et efficiente?
Ok, merci JR pour la parole. Et je salue vraiment les interventions de nos auditeurs qui ont appelé de partout. Mais il faut fixer des choses. La première chose que j'aimerais dire, il faut que les amis se mettent d'accord avec moi que le financement qui arrive au pays, c'est le financement pays, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas un financement pays, ce n'est plutôt province, ce n'est pas un financement uniquement pour les organisations de la société civile. C'est la réponse aux problèmes de la santé, notamment le VIH, le paludisme et la tuberculose. Mais aussi, il faut le dire, il faut que les gens sachent, et ça je le répète, que le financement attendu pour le VIH, c'est essentiellement 130 millions comme budget indicatif. Donc, c'est pas 700 millions. Les 700 millions, c'est l'enveloppe globale. Donc, pour le VIH, c'est 130 millions. Les fonds seront gérés par ce qu'on appelle, au fait, il faut que les gens d'abord sachent que le Fonds mondial a mis en place un mécanisme de gestion de fonds mondial depuis que le Fonds mondial existe dans notre pays. Il y a d'abord l'organe qu'on appelle le CCM, l'organe de coordination de tout ce qui est mécanisme, financement du Fonds mondial. Et le CCM désigne les récipiendaires principaux. Les récipiendaires principaux sont désignés sous base de plusieurs critères. Et ces récipiendaires principaux sont connus pour le cadre de ces financements que nous attendons. Il y a des financements qui vont passer par les gouvernements, qui seront gérés par les CAG. Mais il y a aussi, donc c'est le comité de gestion du financement au niveau politique. Mais il y a aussi des PR qui sont privés ou qui sont de la société civile, notamment Corded, notamment Sanru, mais il y a aussi le CNOS qui sera dans la gestion de ces fonds. Donc, ces fonds sera géré par ces panels-là de PR. Mais les PR, à leur tour, vont recruter les sous-bénéficiaires.
Les PR, ça veut dire
les récipiendaires principaux.
qui reçoivent... PR, c'est
en anglais. En anglais. Okay, oui, voilà. Donc ce sont les récipiendaires principaux qui reçoivent le financement et qui vont les gérer. Et les PR vont recruter les sous-récipiendaires donc pour la mise en œuvre de ces projets. Mais nous passons sur ce qu'on appelle l'approche zone de santé. Donc l'unité opérationnelle, c'est la zone de santé. C'est dans la zone de santé où on trouve des structures, où on trouve des formations médicales qui font la prise en charge. Mais aussi, c'est au niveau de la zone de santé qu'on va trouver les organisations de la société
civile. Mais la même approche a été utilisée par les passés.
Oui, c'est l'approche qui est encore en place jusqu'à preuve du contraire, donc on n'a pas changé depuis.
Qui a été remise en cause par les partenaires. Mais pourquoi on revient encore on ne peut pas peut-être modifier l'approche?
Bon, et c'est ça les combats même de la société civile. Il faut le dire que ça fait une semaine, nous venons de sortir d'un atelier qui a été organisé, d'ailleurs, avec les fonds de contrepartie, parce qu'il faut le dire que dans les 3 millions que nous avons reçus du gouvernement, la société civile a reçu environ 930 000 dollars pour mettre en place certaines interventions. Et notamment, c'était cet atelier. Cet atelier nous permet de réfléchir sur le montage du système communautaire pour voir comment faire un ancrage entre les systèmes communautaires et les systèmes de santé.
Tout à fait. Et intéresser les concernés directement.
C'est ça.
C'est plus
donc,
pratique.
Voir comment les communautés bénéficiaires eux-mêmes, les personnes vivant avec le VIH notamment, mais aussi les personnes affectées qui sont dans d'autres structures, comme nos amis qui venaient de parler des gènes, les autres
couches sociales.
Couches sociales qui peuvent aussi contribuer au résultat. Résultats que nous voulons atteindre tous. Donc, c'est un fonds qui arrive pour des résultats. Ce n'est pas un fonds pour la répartition.
Alors, il y avait une préoccupation d'un auditeur tout à l'heure qui parlait de beaucoup d'argent dépensé pour des supports publicitaires. Mais pourtant, on a un problème de l'analphabétisme. Les gens qui ne savent pas lire, alors c'est comme si la sensibilisation passe au côté de la plaque.
Nous sommes tout à fait d'accord avec lui parce que ça, c'était même les diagnostics que nous avons fait. Parce qu'avant de faire le plan stratégique national, on a fait la revue du programme. Tout ce qu'il a dit, ça a été relevé dans la revue du programme. Il y a trop peu de gens qui sont touchés par les messages, notamment les jeunes. Mais dans toute la planification, les RACOG est avec nous. Nous travaillons avec les réseaux des jeunes qui est à nos côtés, nous travaillons. Et ce sont même des priorités que les RACOG a fait remonter. De la même manière qu'il a fait son analyse, ceux qui sont avec nous ont fait la même analyse. Les stratégies sont en train d'être revues. Je crois que la communication pour le changement des comportements, des proximités, parce qu'il a utilisé bouche à oreille, mais nous parlons des termes techniques, qui parlons des communications, des proximités, sera plus mise en avant-garde et c'est ce qu'on va utiliser plus comme stratégie pour communiquer avec toutes les couches, pas seulement les jeunes. Donc nous sommes d'accord avec lui et c'est comme ça qu'on va faire.
Oui, alors parce qu'on a parlé de difficultés ou la problématique de la prise en charge également des malades, il y a une question qui me passe par la tête, là c'est juste l'accès aux ARV, aux antirétroviraux. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est vraiment là un problème sérieux. Vous pensez que sur 5 ans, avec ces fonds, cette fois-ci, on pourrait quand même arriver à répondre à cette problématique et ainsi aller vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement?
Oui, en 5 ans, ça ne sera pas réaliste, ça il faut avouer. Mais les efforts sont en train d'être faits. Donc, il y a le Fonds mondial qui apporte sa contribution. Je t'ai dit tout à l'heure là que pour 5 ans,
d'autres partenaires peuvent aussi.
Oui, les besoins, c'est au-delà de 2 milliards. Yeah. Donc, le Fonds mondial apporte sa contribution. Il y a les fonds PEPFA qui arrivent dans le pays, qui apportent la contribution, surtout avec les enfants, avec les projets Glazer et les autres. Donc, les efforts, mais aussi, il faut le dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est la responsabilité du gouvernement dans tous les états du monde. Les gens se mobilisent pour que le pays, les gouvernements prennent en charge sa population. Donc, ça, c'est ça. Si nous voulons que les choses soient durables, que les choses soient pérennes, il faut que les gouvernements soient à même de prendre à 100% la population congolaise face à tous ces problèmes de santé. Mais là, nous saluons tous les efforts qui sont en train d'être faits, comme nous avons dit, il y a les fonds de contrepartie, mais il y a d'autres mécanismes, notamment avec tout ce qu'on appelle des mutuelles de santé. On est en train de multiplier des stratégies pour que de plus en plus la partie gouvernementale s'approprie la lutte contre les maladies. Donc je crois que...
Parce que l'idéal, c'est d'aller au-delà de 5% de fonds de contrepartie, parce que le budget en soi, la part allouée déjà au secteur de la santé, ça ne peut pas répondre à toutes ces difficultés, à toutes ces problématiques liées à la lutte contre le sida. On va repasser à nouveau standard pour accorder la parole à Guy de Kamina et Papy de Kinshasa. Guy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Guy.
Oui, avant d'intervenir, je voulais porter d'abord un correctif. il y a tout récemment sur les antennes de Radio Okapi, on a dit qu'à Fungurume, il y a, la présence avait un peu diminué. En ce temps-là, j'étais à Fungurume. Je pense que nous devons faire la part de choses.
Donc vous avez suivi sur, sur
radio. Moment où le malade n'était pas correctement pris en charge, c'est ce que les malades mouraient. Ce qui fait que la prévalence est diminuée.
À Fungurume.
Si vous regardez très bien, oui, il y a Fungurume au Katanga. Et si vous regardez très bien en Afrique australe, on dit la prévalence est haute, c'est parce que les malades sont correctement pris en charge. En dehors de ceci, je veux aussi dire que nous savions très bien que le gouvernement congolais a sérieusement désinvesti dans les facteurs éducation étrangers. Mais j'ai pensé que c'est tout à vivre, parce qu'avec cette histoire de 15% du budget qui est alloué à la santé. Et concernant le sujet du jour, concernant le fonds, moi, personnellement, sous les priorités, je vais intervenir sur des volets. Sur le plan traitement, nous savons très bien qu'au Congo, il y a 85 à 90% des personnes posées qui ne sont pas sous ARV. Donc je pense que ces fonds doivent heureusement être alloués à l'achat de ce produit. Et sur le plan préventif, je pense que nous savions très bien que nous ne devons pas combattre le sida avec l'utilisation de préservatifs. Mais par contre, personnellement, je pense que nous devons comprendre combattre le sida par une bonne éducation et une bonne sensibilisation. Nous voyons qu'il y a beaucoup maintenant de maisons de tolérance, c'est-à-dire de maisons de prostitution. Et avec cette explosion minière au Katanga, nous avons des explorations sexuelles de minières. Et c'est pourquoi tu sais qui fait que le sida a tendance à se juvéniliser, se féminiser dans les carrières minières ici au Katanga. Je pense que il faut allouer beaucoup de fonds pour la sensibilisation et l'éducation. Et aujourd'hui, nous savions très bien que le sida est devenu une maladie urbano-rurale. Parce que dans les milieux où je suis, comme au Kamina, rien n'est fait par rapport au sida. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence du sida. Donc je pense qu'il faut sérieusement sensibiliser toutes les couches. Donc le sida, c'est un match où tout le monde doit jouer. Tous les acteurs sociaux, les religieux, les étudiants, les écoliers et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en manque d'informations. Donc je pense qu'il faut sérieusement éduquer.
Oui, est-ce que Guy, vous partagez l'avis de Joël qui parlait tout à l'heure, lui qui est très engagé dans la lutte contre le sida dans les secteurs des jeunes, qui a dit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés inutilement dans les supports publicitaires. Pourtant, il y a pratiquement 80% de la population qui est à l'alphabet.
En tout cas, je partage totalement son avis. C'est une réalité exacte. Donc on ne peut pas perdre beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens...
Alors quelle est l'approche qu'on peut utiliser?
Donc au lieu de faire des spots publicitaires pour rien, moi je pense qu'il faut des communications interpersonnelles, il faut une bonne éducation, il faut une bonne sensibilisation. Nous ne devons pas perdre un outil à l'argent. Je partage sérieusement son avis. Il a totalement raison.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez articulé votre intervention sur deux points, donc les traitements et la prévention. Pour les traitements, vous avez reconnu que 80 à 90% des personnes malades n'ont pas accès aux ARV. Vous aimeriez bien qu'on puisse prioriser d'abord l'achat des ARV et le disponibiliser pour le malade. Quant à la prévention, il faudrait, renforcer la sensibilisation et en utilisant, comme notre invité a dit, la communication des proximités, et ça pourrait donner les résultats et ainsi on aurait atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Merci beaucoup Guy d'avoir appelé des Kamina et de nous avoir donné des exemples sur le terrain. Papy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour.
Vous avez la parole Papy.
Oui, au-delà de ce que l'invité et mes prédécesseurs ont déjà dit, j'ajouterai seulement qu'au niveau de la prévention, il serait mieux qu'on puisse introduire ces cours au niveau de notre système éducatif, surtout au niveau des humanités, dans des cours tels que l'hygiène corporelle, l'éducation de citoyenneté, l'hygiène familiale, parce que si les enfants ont déjà ces notions-là dès le bas âge, ils sauront comment prévenir ces dangers-là, parce que les dangers devaient être toujours permanents. Il faut en outre rendre le dépistage facile, monsieur J.R., en faisant de sorte que la population n'ait pas peur pour se faire des suites, comme c'est le cas actuellement, parce qu'il y a des ceux qui sont déjà atteints par les virus dangereux, mais ne le sachant pas. Alors, dans les domaines de traitement ou de la prise en charge, l'on doit mettre un accent sur le renforcement des capacités du personnel de santé en matière de lutte contre le VIH-SIDA. Parce que dans beaucoup de structures sanitaires, on constate une certaine défaillance de la part des personnels. Quand je parle du personnel, je ne vois pas seulement les médecins, mais je vois aussi les infirmiers et autres personnels qui travaillent dans ces structures. Enfin, pour terminer, les responsables des PNMLS doivent aussi faire de sorte que les personnes vivant avec le VIH-SIDA puissent être considérées par la loi comme des êtres vulnérables. Par conséquent, elles doivent être bénéficiaires d'une protection spéciale, comme le cas des ambulances, des personnes vivant avec handicap, des femmes et des enfants. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, papy, d'avoir appelé. Nous allons prendre Polycarpe de Kindou. Alors, Polycarpe, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand vous nous avez appelé, vous avez signifié que vous vouliez insister sur les antirétroviraux, l'accessibilité aux antirétroviraux.
Oui, moi, la population aux antirétroviraux, normalement, mais je suis en train de constater que les gens sont en train de passer le VIH-SIDA.
Voilà, dommage, on ne peut pas vous garder. Si peut-être vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, on verra si ça va s'améliorer. Comme ça, on peut vous garder en onde. Sinon, bon, par le souci des auditeurs qui nous suivent en ce moment, cette mauvaise qualité, on ne peut pas continuer. Polycarpe, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, dommage. Décidément, on ne peut pas. C'est vraiment la communication est de mauvaise qualité. On ne sait pas vous garder le plus longtemps possible. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission qui vous accorde la parole et nous poursuivons avec notre invité qui est dans ses studios, Gaspard Matamba, chargé des programmes et plaidoyer à l'Amont Congo. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs et on a remarqué que certains parmi eux ont encore insisté sur la sensibilisation et aussi l'accès aux antirétroviraux.
Exactement. Mais je mérite quand même corriger, parce que quand on parle des chiffres, il faut faire très attention, parce que ce que nous disons, nous sommes suivis de partout, sinon les efforts qui sont faits parce par le partenaire et tout ça, risquent de
paniquer.
C'est ça. Oui. Et quand on nous dit qu'il y a 80 à 90% de personnes en RDC qui n'ont pas accès au traitement...
On a parlé de Kalemie. Kalemie, je crois Kamina.
Oui, Kamina. Si c'est à Kamina, ça c'est un cas particulier, ouais, mais de Kamina. Façon générale...
Et là, il parlait de Fungurume, il a évoqué le cas sectoriel donc au niveau de Kamina, 80 à 90% de, ouais, des malades vivant à Kamina qui n'ont pas accès parce qu'il y a des problèmes des antirétroviraux là-bas.
Oui, ça c'est un cas particulier, mais d'une façon générale, le pays, la couverture en termes de traitement est autour de 40-45%. Donc il y a quand même des efforts qui ont été faits, parce qu'à peine on était autour de moins de 20%, maintenant on est autour de 40-45%, et la couverture même en termes de PTM, nous étions aussi en dessous de 10%, autour de 10%, là nous sommes autour de 29-30%, donc chaque jour il y a quand même des efforts qui sont faits dans l'ensemble, donc, mais il y a quand même des cas isolés, et ça il faut reconnaître que la RDC elle est grande, et il y a effectivement des problèmes pour faire à parvenir même le médicament dans certains coins qui sont inaccessibles, et même là où c'est accessible, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, mais les efforts qui sont en train d'être faits pour qu'au moins qu'on arrive à une couverture qui soit au-delà de 80%.
Mais alors, je ne sais pas si ces problèmes pouvaient peut-être être résolus au moment où si jamais on encourageait les opérateurs pharmaceutiques des autres pays. En tout cas, à un certain moment, il y avait même un débat autour des ARVs qui étaient fabriqués ici au Congo et qui attendaient en fait la certification de au niveau de l'OMS. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire une idée, vous qui êtes vraiment un acteur sur le terrain, comment cette affaire a évolué?
Bon, là, c'est encore une question sensible, c'est une question politique.
Très, très, très politique.
Très politique, ça, il faut le dire, parce que c'est la pharmacie.
Mais le fisc qui donnait l'information
oui,
aux auditeurs qui nous suivent.
La pharmacie qui produit les ARV de bonne qualité, parce qu'on les a
mais utilisés, jamais,
mais ça n'a jamais été certifié. Ils ont des problèmes, il faut trouver de l'argent pour certifier ça. Donc, mais est-ce que le vrai problème, c'est de l'argent? On ne croit pas.
Est-ce qu'au niveau de la société civile, au niveau des structures que vous dirigez, que vous coordonnez, est-ce qu'on ne peut pas faire des plaidoyers au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un lobbying pour arriver à convaincre quand même l'Organisation mondiale de la santé par rapport à ça? Ça pourrait résoudre le problème, au lieu d'attendre les ARV qui proviendraient de l'extérieur, qui sont parfois honorés, très coûteux, très salés pour le pays. Alors, on ne peut que consommer localement.
Effectivement, ça, ce point est parmi des points qui sont des points prioritaires pour les organisations de la société civile en matière de plaidoyers. Mais comme on a beaucoup de dossiers sur la table, on y va mollo, donc on espère qu'on va arriver un jour là, mais...
Parce que dans la lutte, sans ARV, la lutte est vouée à l'échec. Parce que les gens ne vont pas avoir accès aux ARV, logiquement, donc ce ne sera pas une lutte efficace.
Effectivement, donc...
Parce que personne ne souhaiterait chaque fois sortir beaucoup d'argent pour les ARV qui proviendraient de d'autres filiales extérieures.
C'est ça le combat. Donc c'est un combat et qui continue à être mené. Et nous espérons que nous arriverons au bon résultat parce que, bon, c'est vraiment une question politique.
Voilà, on comprend la réponse.
Ouais.
Alors il y a Guy qui avait insisté également sur aujourd'hui le sida, la plus importante d'ailleurs qui au fait exige une sensibilisation, c'est la jeunesse et les femmes. Et en milieu rural, surtout urbano-rural, pas comme il a insisté.
Tout à fait, parce que quand vous regardez même la tendance de l'épidémie chez nous, c'est une épidémie qui a tendance effectivement
à se ruraliser.
C'est ruralisé, comme nous le disons, à se féminiser, à se juvéniliser, donc c'est un peu ça. Et je l'ai même dit au début de mon intervention, que même au niveau des priorités, dans la cible, nous avons les populations clés, mais au-delà des populations clés, nous avons dans la population générale les femmes, les couples et les jeunes. Donc ça, c'est vraiment une cible prioritaire et on est conscient, il faut beaucoup d'interventions, beaucoup de moyens. Et même quand vous regardez la répartition de la fourchette du budget dans le plan stratégique national dont je fais allusion de 2 milliards, plus de 37% du budget est alloué à la prévention, avec un focus sur ces différents groupes tels que je l'ai dit. Donc voilà.
Alors il y a un auditeur qui a insisté sur la clé de répartition aussi au niveau des provinces. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée? C'est pratiquement patient, non? Pas patient, qui était bien avant Patrick de Nord-Kivu. Parce qu'il a dit Nord-Kivu, aujourd'hui, capitale du viol, est-ce qu'on ne peut pas, privilégier cette partie du pays qui vient de sortir d'ailleurs de guerres successives avec des rébellions, des groupes armés très actifs aujourd'hui. C'est vrai que la province est déclarée sinistrée. Il faut vraiment une intervention de choc pour permettre à ce qu'on puisse remonter un peu le moral des gens.
Effectivement, même quand vous regardez dans le plan stratégique, notre bible en matière de lutte, s'il faut le dire, les provinces sont classées en ordre de priorité. Et la priorité tient compte de plusieurs facteurs, dont je ne saurais énumérer ici en détail. Et notamment, la province de Nord-Kivu, la province du Katanga, la province orientale, sont des provinces prioritaires. Même le Sud-Kivu. Donc, ce sont des provinces prioritaires, même par rapport à nos interventions. Donc, même là, par exemple, avec la société civile, j'ai suivi les intervenants qui sont passés avant, qui parlaient de la contribution de la participation de la société civile. Je les disais, nous venons de sortir d'un atelier, qui a permis de réfléchir sur le renforcement du système communautaire. Mais aussi là, nous serons sur le terrain pour faire la cartographie, de voir des véritables intervenants de la société civile qui sont dans les 516 zones de santé que nous avons. Dès qu'ils sont identifiés, je crois que ce sont ces organisations-là qui seront impliquées dans la lutte. Mais déjà, par rapport au paludisme, par rapport à la tuberculose, surtout, et le VIH, il y aura des missions des équipes des organisations de la société civile qui vont aller pour former. Mais dans nos priorités, c'est effectivement les Katanga, c'est les noms qui sont en priorité.
Voilà, on ne sait pas s'il y a l'auditeur qui est en ligne, on va les prendre, mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, si vous voulez nous rejoindre, vous allez composer les 081-890-63-15 ou bien les 081-890-49-69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, nous poursuivons avec vous, parole aux auditeurs de Gaspard Matamba. Avant de repasser à nouveau au standard, une question des curiosités aujourd'hui. Nous avons suivi Pierre de Kananga qui a parlé des activités qui sont arrêtées, des activités, des activités de PNMLS, le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida, dans cette partie du pays. J'imagine que ce n'est pas seulement la partie où le PNMLS a fermé faute de financement, il y a aussi d'autres partie. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que c'est une nécessité qu'on puisse réouvrir, qu'on puisse redémarrer les activités des PNMLS et surtout par rapport à ces fonds pour, au fait, relancer la lutte dans certaines parties du pays?
Au fait, le PNMLS, c'est le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA qui dépend totalement de la présidence de la République, comme nous le savons, comme organe de coordination. Mais, comme nous l'appelons, c'est programme multisectoriel, c'est-à-dire que tout le monde est dedans. Que ce soit le ministère du gouvernement, que ce soit la partie société civile. Donc le PNMLS, c'est tout le monde. C'est lui, c'est moi, c'est tout le monde qui formons le PNMLS. Mais c'est qu'il faut reconnaître que le PNMLS, dans sa configuration avant, c'était un programme qui était directement attaché à un financement. C'était le financement de la Banque mondiale. Il était à la fois programme et il était aussi gestionnaire de ces fonds. Mais maintenant là, c'est clairement dissocié. Donc le PNMLS est resté comme programme et il est là. Donc tous, comme je le dis là, parti civil, parti gouvernemental, tout ça nous faisons corps avec...
Il ne gère plus les financements.
Il ne gère plus les financements. Par rapport au financement du Fonds mondial, effectivement, il y a... Le PNMLS est dedans parce qu'il fait partie des acteurs qui travaillent pour la construction de... Quand je dis, c'est le PNMLS qui a mis en place le plan stratégique national. Et le plan stratégique national de lutte contre le VIH-SIDA, c'est ça même le document de base pour dégager les priorités pays qui doivent entrer dans la note conceptuelle. Donc le PNMLS est... acteurs dans ce financement parce que non seulement comme gestionnaire de...
Les bureaux ont fermé.
Non, les bureaux sont là. Le PNMLS, quand vous arrivez sur Triomphal, la coordination du PNMLS est là. C'est seulement la partie financement de la Banque mondiale qu'il gérait qui n'est plus là. Ces fonds sont partis, mais c'est le PNMLS qui édicte également la politique même de lutte contre le VIH, c'est le PNMLS, et il travaille, il est là.
Voilà, on va prendre des auditeurs qui nous ont rejoints, Jean-Patrick à Mbandaka et Eliaou à Kinshasa. Jean-Patrick, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, on se pose la question de savoir quel regard portez-vous sur la lutte contre le sida en RDC à ces jours. Alors, quelles seraient pour vous les priorités au moment où cet argent promis par le Fonds mondial arriverait entre les mains du gouvernement congolais? Quelles seraient les priorités dans le secteur?
Oui, sinon, compte tenu de ce financement-là, si j'ai bien suivi l'invité, il a parlé aussi de la tuberculose. Sinon, je voulais surtout intervenir en ce qui concerne la tuberculose, parce qu'il y a 5 cas qui est presque délaissé, auxquels les gens ne font pas beaucoup d'attachement.
Bon, voilà, ce n'est pas le sujet du jour, mais de toutes les façons, parce que quand on parle des maladies opportunistes, hein, au moment où il y a le sida, on cite aussi la tuberculose. À ce titre, nous vous permettons quand même d'aborder la question du jour, c'est le sida, la prise en charge, la prévention et tant d'autres actions qui sont menées pour vraiment réduire ou encore réduire sensiblement la maladie dans ce pays.
Oui, ok, pas de problème, je vais toutefois aborder cet angle-là, le sujet du jour. Alors, ce que je pourrais peut-être proposer est que, bien avant, il y avait des distributions de préservatifs un peu partout, quel que soit dans des lieux scolaires, au lieu de travail, un peu partout, ça se faisait gratuitement. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Ça se fait par vente dans des pharmacies. Et cela peut-être pourrait aider la population à se protéger, à s'abstenir à des contacts sans prudent, c'est quoi? Sans prudence, c'est
tout,
très
tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-Patrick, d'avoir élevé cela. C'est quand même un élément très important. Il y a autrefois, les préservatifs étaient distribués gratuitement. Aujourd'hui, quand nous allons dans les officines pharmaceutiques, on se rend compte que, moyennant quelque chose qu'on a ça, et même dans les hôtels, même aussi dans les bars, autrefois, on les distribuait gratuitement, mais aujourd'hui, il faut émettre quelque chose. Alors, pourquoi ne pas renforcer, multiplier ou acheter davantage des préservatifs et donner aux hôteliers gratuitement, qu'ils remettent aussi, qu'ils donnent aussi gratuitement à ceux qui, au fait, des professionnels des sexes et tant d'autres qui fréquentent les hôtels à longueur de journée. Voilà. Jean-Patrick, merci beaucoup. Liaou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci vous... aussi à l'invité. Bonjour.
Bonjour.
Ok. Moi, j'ai deux préoccupations par rapport au sujet. J'évolue dans le district de la Mongala, dans la province de l'Équateur, précisément à Bumba et à Lissala. J'ai une ONG de là-bas et nous avons inscrit aussi dans notre programme la lutte contre le VIH et le SIDA. Mais dans nos approches auprès de médecins chefs de zone de nos entités sanitaires là-bas, j'ai mené des enquêtes. J'ai décelé que depuis que le PNMLS existe au Congo, jusque-là, il n'est pas encore établi dans le district de la Mongala. Or, dans nos investigations auprès des médecins chefs de zone, on a découvert qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH et le SIDA, mais ces gens-là n'arrivent pas à bénéficier de produits antirétroviraux. Je prends l'exemple de médecins chefs de zone de la cité de Bumba, docteur Abdon, à qui m'a réussi à deux ou trois reprises. Il déplorait le problème des RV. Il dit on leur envoie ne fût qu'un petit vote en provenance du chef lieu du district, Ali Salah, pour remettre à ces personnes-là à qui elles disaient ceci là. Et quand ils le remettent, peut-être les autres n'en bénéficient pas et ils se soucient de ces problèmes-là. Ce n'est pas possible. Le PNMLS existe, ça fait au moins 5 ans ou 7 mois, mais comment il n'y a même pas une antenne du PNMLS au niveau du district de la Mongala, précisément à l'Issala, pour que ça puisse quand même procéder à définir le cas des personnes qui vivent avec le SIDA et voir de quelle mesure on peut planifier des projets de lutte. Ça n'existe pas. À chaque fois qu'il y a un besoin pareil, ceux de l'Issala, de la Mongala, on les envoie, on leur demande d'aller à Gemouna pour soit suivre des formations et des choses comme ça. Alors, quand déjà au niveau de la cité de Bumba, parce que c'est une agglomération commerciale qui est fréquentée par beaucoup de gens. Les bateaux y arrivent à Gogo, qui viennent de Kisangani, qui viennent de Kinshasa. Et cette masse de gens, des commerçants, des trafiquants, qui abondent cette cité de Bumba et de Lissala, font en sorte que cette pandémie-là puisse augmenter. Au moment où il n'y a même pas... je vais aller pour faire le dépistage, hein, parce que j'avais...
Oui, Monsieur Liaou, on a compris. On a compris. Je crois qu'on va s'arrêter là. Même Dadi qui est à Kinshasa, à qui on n'est pas accordé la parole. Bon, dommage, on n'a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité, Dadi. En tout cas, on ne saura pas vous accorder la parole. Hein, vous nous excuserez. C'est une partie remise, Dadi. Je crois que prochainement, on va vous appeler pour le sujet, puis vous allez intervenir en premier. Dadi, merci d'avoir souhaité participer à cette émission. Alors, on va conclure avec vous, Gaspard Matamba. C'est vrai, vous êtes chargé de programme et plaidoyer à la Mokongo. Vous avez suivi surtout les derniers cas, les témoignages des Liaou, hein, à Mongala. C'est quand même interpellateur, quoi. Donc, je ne sais pas, comment vous répondez aux uns aux autres?
Oui, merci. La couverture en termes de zones de santé. Il faut dire d'abord que la RDC a 516 zones de santé à ce jour. Et quand le financement arrive, ce sont des financements ciblés par rapport à certaines zones. Donc, le Fonds mondial jusque-là, je crois, si je ne m'abuse pas, couvrait environ 137 zones de santé. Et là, nous sommes en train de voir comment passer à l'extension avec les nouveaux financements qui vont arriver 2015-2017. Donc, il y aura... en plus d'autres zones qui vont s'ajouter. Mais il y a d'autres zones qui n'étaient pas prises en charge par les fonds mondiaux, qui seront couvertes par d'autres fonds, notamment les fonds PEPFAR. Nous espérons qu'en 2015, donc le vent de 2015-2017 pourra couvrir
l'ensemble des zones de santé. Donc, nous sommes tout à fait conscients et d'accord avec ce que notre ami dit. C'est possible que cette zone soit parmi des zones non couvertes. Et même l'effort à faire et que nous continuons à faire tous, c'est arriver à la couverture totale des 500 zones de santé que nous avons dans l'ensemble du pays. Mais il y a aussi l'autre intervenant qui avait parlé des préservatifs qui sont payants. Il faut le reconnaître qu'il y a des projets qui apportent des préservatifs qui sont gratuits jusqu'à aujourd'hui, notamment les fonds mondiaux et d'autres. Mais il y a aussi deux amis, par exemple de PSI, ASF, qui ont le volet marketing avec le préservatif qu'ils placent dans les officines, qu'ils placent dans les hôtels et dont ils les demandent quelques frais, de petits frais, notamment 50 francs, 100 francs. Et ça, ce sont des cas qui arrivent et ça, c'est un autre volet du marketing avec le PSI. Mais d'une façon générale, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes en termes de couverture au pays, en termes des besoins qui sont énormes, nous l'avons dit, nous sommes à peine à 40%, mais nous espérons qu'avec les efforts qui sont fournis, nous pourrions atteindre 100%, pourquoi pas. Mais surtout, il faut une implication du gouvernement. Ça, c'est la responsabilité qui revient à notre gouvernement, parce que tous ces fonds vont se retirer, mais nous devons nous approprier la lutte, et chacun de nous a sa pierre plutôt à apporter, là où il est, que tu sois église, que tu sois école, que tu sois, même vous qui êtes là, journaliste, vous avez une grande responsabilité pour que tous nous puissions combattre plutôt cette maladie qui est le VIH.
L'amour au Congo. Merci, à très bientôt.
Allô? Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net et nous allons retrouver lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Bonne suite des programmes sur Okapi.